ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette émission d'octobre. Le hasard fait parfois bien les choses parce que nous sommes en octobre et il se trouve que nous allons parler avec quelqu'un dont le recueil a quelque chose à voir avec l'automne. Vous en rendrez assez rapidement compte. Bonjour Pierre de La Fontaine.
Bonjour Christine.
Voilà, je suis ravie de vous accueillir, de t'accueillir. Oui, on ne va pas, vous voyez. Je suis ravie de t'accueillir pour cette émission et pour justement ton deuxième recueil qui s'appelle « C'est Brest qui nous porte » et dont on va évoquer le contenu aujourd'hui avec différentes lectures, différentes musiques et puis discuter un petit peu aussi de ce qui t'a amené à ce deuxième recueil. Alors, je t'avais reçu, pour ceux qui s'en rappellent, pour les auditeurs qui me suivent, je t'avais reçu l'année dernière.
Oui.
Et donc, on se retrouve cette année pour un deuxième recueil. Alors, comment ça se passe du premier au deuxième ?
Comment ça se passe du premier au deuxième ? Après avoir publié le premier, donc c'était à l'automne 2021, je continue d'écrire des textes, je continue d'écrire de la prose poétique et des poèmes. Et puis, ensuite, donc j'ai beaucoup de textes sur mon ordinateur, parce que je n'arrête jamais d'écrire. Et puis après, j'essaye de faire des choix pour constituer un manuscrit que j'ai envoyé à un éditeur. Et, ce manuscrit a été pris par les éditions Alcyone, donc éditeur de poésie. Et donc le livre est paru cette année au mois de juin.
Voilà. D'accord. Alors, je parlais tout à l'heure de tonalité automnale. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots justement de l'ensemble, de la tonalité d'ensemble, et peut-être aussi du choix du titre, hein, qui, elle, je le rappelle, c'est Braise qui nous porte.
Qu'est-ce qu'on va dire sur l'ensemble ? Bon, déjà, alors il y a une partie, il y a trois parties en prose poétique. Il y a aussi la quatrième partie qui est un ensemble d'une cinquantaine de poèmes. La tonalité, on peut dire que ce sont des textes qui célèbrent le foisonnement de la vie sous toutes ses formes. Et effectivement, le côté automne est assez présent parce que j'aime beaucoup cette saison. Je crois qu'il y a dans le livre, dans les textes, il y a de présent la fragilité de la vie, l'éphémère, les moments à saisir, le temps qui passe. Ce sont des textes qui sont à l'affût du quotidien, du simple, de ce qui est autour de nous et que l'on ne sait peut-être pas toujours voir. Un homme qui coupe du bois, une scène de la rue, un regard que l'on croise, des larmes, des rires, des moments qui parfois sont des moments de grâce. Il y a aussi, le temps qui passe, donc sans doute une certaine mélancolie. Mm-hmm. C'est le sentiment de mélancolie, c'est un sentiment que j'aime bien. Il y a une espèce de douceur.
Oui, et puis, d'avoir lu ton recueil, je trouve qu'effectivement, il y a de la mélancolie, mais il y a aussi beaucoup de sérénité.
Oui, oui, hein, oui.
Justement, devant le temps qui passe et qui permet d'entretenir les souvenirs et de s'accrocher justement à ces braises qui restent et qui font vivre.
Il y a l'idée de traquer aussi la beauté, mais la beauté du quotidien, la beauté du simple, loin du spectaculaire, loin de la société de consommation et loin du paraître. Il me semble que ce livre, c'est une attention au monde qui nous entoure. Voilà.
Alors, on l'avait peut-être déjà dans le précédent, ça.
Oui.
On en avait parlé, je me souviens. Est-ce que tu as creusé ce sillon-là ou est-ce que c'est volontaire ou c'est venu comme ça parce que c'est
Oui, c'est volontaire. J'ai creusé ce sillon. J'ai plus insisté. Donc, je le disais, il y a trois parties qui sont de la prose poétique. Ce n'est pas tout à fait la même écriture que les poèmes, même si au niveau de la tonalité, c'est sans doute la même. Mais en termes d'écriture, oui. C'est un peu différent quand même. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Et j'ai plus approfondi le côté pro dans ce livre que dans le premier. D'accord. Même s'il y en avait déjà. D'ailleurs, dans ce livre, une partie que l'on évoquera tout à l'heure fait écho, une partie qui s'appelle Elki, elle fait écho à une partie du premier livre qui s'appelait « C'est sa façon d'aimer ». C'est un clin d'œil à la première partie. Voilà ce que je peux dire. Alors, par rapport au titre, puisque tu me questionnes sur le titre, « C'est Braise qui nous porte », c'est pour moi toutes ces petites choses qui nous aident à vivre, qui font partie de la vie et qui nous permettent aussi de tenir debout dans ce monde qui est difficile à vivre. Et alors, ça peut être la lumière du matin, la clarté, un beau paysage.
Alors, on a souvent, la nature est souvent évoquée.
Oui. La nature est présente, oui. La nature est présente, la lumière aussi, la lumière du matin ou du soir.
Et même de la nuit.
Et de la nuit aussi.
Tu dis que la nuit n'est pas
noire.
Oui,
c'est vrai. En fait, il y a un peu l'idée aussi que la vie, c'est parfois la lumière, c'est parfois aussi des blessures, enfin, c'est voilà, la vie. Mais il y a un peu l'idée, alors je ne sais pas si le lecteur peut le sentir, de la vie qui finalement rebondit toujours.
Oui.
Malgré tout. La vie et rien d'autre.
C'est la vie qui gagne.
La vie qui gagne.
Bien, moi j'ai donc lu et relu ce recueil et j'ai cherché des musiques qui pouvaient accompagner les textes de Pierre. Et finalement, j'ai trouvé une forme musicale qui s'appelle la mazurka, qui est une danse à l'origine de Pologne, une danse à trois temps avec l'accent sur le deuxième. Alors, c'est un mot qu'on associe souvent au compositeur Frédéric Chopin. Parce qu'il en a composé beaucoup. Et quand il a composé ses mazurkas, c'est parce qu'il était loin de son pays, loin de Varsovie, donc un petit peu en exil. Et ce qui fait qu'elles sont souvent en mode mineur et qu'elles évoquent souvent justement la nostalgie du pays natal avec une prédilection pour le rubato, c'est-à-dire que la mesure n'est pas toujours respectée à la lettre et il se permet de devancer ou de retarder le temps, ce qui est propre aux musiciens romantiques apparemment. Et je voulais dire simplement qu'à propos de Chopin, Liszt disait ceci, il disait « Le vent joue dans les feuilles, les fait ondoyer, mais l'arbre ne bouge pas. Voilà le rubato chopinesque. » J'aime bien ce mot chopinesque. Et j'ai trouvé que ce qu'il disait là, ça allait assez bien aussi avec tes textes. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, par rapport à ce que tu disais sur la vie, qu'effectivement, on est ballotté de ci, de là, mais finalement, il reste, la vie gagne, comme tu disais. La vie arrive à continuer malgré tout. Et cette idée de légèreté qu'on voit souvent dans tes textes et de flou, d'incertain, je trouve qu'on la trouve aussi dans cette mazurka, dans ces mazurkas qu'on va entendre tout au long de l'émission. Voilà, donc avec Chopin, il y aura aussi des mazurkas d'un compositeur anglais contemporain d'origine syrienne qui est né à Londres en 1971, qui est aussi pianiste, chef d'orchestre, qui a écrit des opéras, de la musique pour orchestre, de la musique de chambre, de la musique chorale et vocale, et de la musique pour clavier. Donc il y aura trois mazurkas qui ont été créés en 2009. Écoutons la première, qui est interprétée par le jeune pianiste d'origine taïwanaise, Han Chen. Thank you.
d'ocre et mal-être. Elle prend sa source dans la douceur d'octobre, dans cette légère brise qui sculpte les songes et accompagne l'aube nacrée. Elle est parole sauvage. Cette lettre est résistance aux heures ternes. Elle ne veut rien effacer. L'effacement est une imposture. Je la garde près de moi, la serre dans mes doigts. Je l'écris pour laisser trace. Trace des visages rieurs et des larmes de chair. Trace de l'improbable sérénité. Trace de braise toujours vive, de clarté timide. Trace d'une voix frêle, perdue dans la cacophonie d'un monde que l'on n'a pas voulu. Un monde sourd, aveugle, en déroute. Elle est née d'un silence qui se bat pour affirmer sa place, qui se terre dans un abri précaire. Réfractaire à l'artificialité de nos joutes quotidiennes, elle a le visage d'un ciel indocile, un ciel d'ocre.
Voilà, c'est la première page de l'ensemble, la première partie du recueil qui s'appelle « D'ocre ». Hein, c'est une sorte de leitmotiv, ça revient à plusieurs reprises. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette première partie ?
Oui, là, donc « D'ocre », comme tu viens de le dire, installe le lecteur dans cette ambiance, on dirait, d'automne. Je crois qu'il y a ici... une errance, il y a l'idée d'errance dans une ambiance d'automne, mais c'est une errance intérieure. Mmh. Et donc, d'ocre revient régulièrement. Alors ici, sont évoquées des maisons de pierre, la lumière, un visage que l'on croise et que l'on ne reverra pas. Et certains instants, le soir, la nuit. Hein, et tout cela est... Oui, c'est une errance, quelque chose de diffus. On part de l'automne et finalement, on sent qu'il y a des pensées qui vagabondent. Voilà. J'avais en tête, mais pour l'ensemble du livre d'ailleurs, et en général quand j'écris, il y a une phrase de Guy Vic, le grand poète que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'aime bien. Il dit « Quoi que tu fasses, le poème garde mystère ». Donc, je crois que je suis dans cette écriture-là. Je crois qu'il y a l'idée aussi, mais je l'ai évoqué là, d'une présence que l'on croise et que l'on n'a pas su retenir, que l'on n'a pas retenu, parce que, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est cette première partie d'ocre.
Bien, et alors cette première partie, elle fait plusieurs pages.
Oui.
Et moi, je vais vous lire maintenant la fin de cette première partie. Elle est accompagnée d'une mazurka de Chopin, cette fois, qui est interprétée par un jeune pianiste aussi, mais lui, il est russo-lituanien, il s'appelle Lukas Geniusas. D'ocre est cette nuit qui déshabille. Il faut être nu pour éprouver la fragilité de l'existence. On ne devrait jamais dire la nuit noire. La nuit est lumière. Lumière sur les jours de labeur, respiration qui répare la fatigue. Fenêtre ouverte sur un monde qui intrigue, où la vie gagne en profondeur. On épouse le silence, dont chaque oscillation est une caresse. Ce n'est pas le silence que l'on écoute, c'est sa voix. Il n'est plus silence puisqu'il parle. Il se savoure. On s'imprègne de cette voix étrange qui nous ramène à la source de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Toutes les nuits sont longues. Les voix des morts aussi reviennent. La nuit, contemplation de l'invisible. On se laisse absorber par le voile du soir. On regarde le ciel entre éclaircies et grisailles. Le vent donna à entendre une suite de Handel dans l'or des collines. Ivresse d'ocre. Alors abordons maintenant la deuxième partie de ton recueil, une deuxième partie qui s'appelle « La vie courante ».
Oui, « La vie courante », là aussi c'est de la prose. Hein. « La vie courante », c'était dire la vie avec ses heures, ses rendez-vous manqués, ses moments de grâce, ses moments de beauté, ses vertiges. Voilà, c'est tout ça, « La vie courante », ces moments de... d'insouciance aussi. Voilà, la vie courante.
J'imagine qu'au sein de cette vie courante, tu trouves des moments pour écrire. Donc, comment on parle toujours de l'inspiration du poète. C'est quoi l'inspiration? Ça existe ou c'est...
Alors, on imagine toujours l'inspiration qui vient de je ne sais où. Qui
de la muse.
Tombe
de...
voilà. Alors, la réalité, je crois que... Bon... L'écriture, moi, c'est un travail, quoi. Ça se travaille. Alors, évidemment, pour écrire, il faut savoir observer, regarder, écouter, entendre. Hein. Et ensuite, mettre des mots. Et c'est difficile d'écrire. Je trouve que c'est... Enfin, j'adore ça. Hein. Mais ce qui est difficile, c'est de commencer. Pour commencer, il faut commencer et on n'apprend pas à commencer. Il faut se lancer, il faut mettre quelques mots. Alors moi, je travaille à l'ordinateur, il faut mettre quelques mots et les mots vont appeler d'autres mots.
Oui.
Voilà, mais quand on démarre un texte, enfin en tout cas, je vais dire quand je démarre un texte, je ne sais pas vraiment où je vais. Je suis parfois surpris par l'arrivée. Mm-hmm. J'ai pas un plan préétabli, pas du tout. Je me laisse un peu porter par les mots. Et j'avance, et bien sûr, je laisse reposer, et puis je reprends, et puis voilà, les choses avancent petit à petit. Voilà. Parfois, elles avancent assez vite, parfois, c'est plus laborieux. Voilà, c'est un travail... Oui, l'écriture, ça se travaille, ça se retravaille. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur l'écriture? J'aime bien les adjectifs.
Les points-virgules.
Ah, les points-virgules. J'aime bien le point-virgule parce que on ne sait pas vraiment si c'est un point ou si c'est une virgule. Alors, c'est les deux à la fois, mais ce n'est pas franchement un point, ce n'est pas franchement une virgule. J'aime bien le on indéfini aussi. Mm-hmm. Le on indéfini, oui. Parce que, voilà, le on qui on ne sait pas vraiment qui c'est. Et j'aime l'idée de ce qui est indéfini. Mmh. D'ailleurs, je pense, on m'a déjà demandé comment vous définiriez la poésie. Et je crois qu'on ne peut que l'indéfinir.
Mmh, hein. Tout à fait.
Et j'aime l'indéfini dans cette société très simplificatrice, très manichéenne. J'aime bien ce qui est indéfini.
Qui veut tout mettre dans des cases.
Oui, voilà, exactement. Mmh. Et je crois que la poésie, c'est exactement le contraire.
Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors, on va peut-être faire entendre justement quelques morceaux, ou peut-être, est-ce qu'on le fait en entier, celui-là? Non, on en fait une partie de la vie courante.
Une partie de la vie courante.
Et ça va être une lecture à deux voix. Et c'est toi qui commences, je crois bien. Non, c'est moi.
Oui, c'est toi, Christine. On est d'accord.
Alors, c'est à moi. C'est un soir sans faux semblant, un soir nomade, où l'on effleure l'ineffable. Des paroles flottent dans l'air, on cherche son chemin, les craintes se délitent. À l'orée des déchirures, un feu veille, mais on ne le voit pas, pas tout de suite.
On regarde autour de soi, il n'y a personne. Pourtant, quelque chose d'étrange perce, qui relève de l'absence, de la mémoire vive, de l'enfance envolée, de la renaissance, de l'adieu peut-être. Quelque chose qui se devine dans l'air tiède. On sent la profondeur de l'instant nu, une douce tristesse qui se dépose sous les ailes du soir. On attend l'appel de l'aurore, qu'elle prenne la main, qu'elle délivre de l'enclos de la nuit, qu'elle conduise où la vie serpente.
les certitudes se lézardent et défilent alors les jours de notre vie, tous les jours de marbre froid et les jours d'habits de fête. La vie courante avec ses heures, ses rendez-vous manqués, ses défaites et ses vertiges, ses bruissements inattendus. La vie qui s'embrase, dérive, déstabilise, la vie mouvante, imprédictible, éclair d'or dans une nuit d'été, ombre fragile qui s'allonge, porte ouverte sur l'impromptu, gracile écuyère qui défie l'ennui, insaisissable diablesse qui s'éloigne et revient, qui ne trouve sens que dans cet être-là, cette confrontation au tumulte du monde, à l'inachèvement des rêves, à ce qui peuple l'étrangeté de nos jours, la fatigue qui dépose son voile et clôt les visages, l'étoffe étincelante dont on se vêt le creuset du jour, l'étoffe étincelante dont se vêt le creuset du jour, l'élégance des gestes qui balise la cadence du temps, les larmes qui cèdent quand accoste une jubilation soudaine à l'heure du crépuscule.
Une traversée aventureuse dans la densité d'une vie indomptable, au rivage incertain. Une vie qui échappe quelque peu, dont on voudrait pouvoir retenir la folle chevauchée qui paraît si frêle, une compagne lointaine et familière, dont on étreint les mains tremblantes et fiévreuses, mais que l'on laisse parfois se fondre dans la monotonie rampante, se perdre sous la robe des regrets, le renoncement qui dépouille, la distance qui délie.
On ne répare pas les jours éteints. On ne perd jamais tout à fait les jours lumineux. On garde dans une boîte de petits riens qui sont le cœur même de notre histoire. Un jour, on soulève le couvercle. Des volutes de fumée bleue s'échappent et déposent des images sur l'ordinaire environnant. Un enfant rit en grimpant sur un arbre. Une femme l'appelle, le raisonne, exige, mais il ne répond pas et monte encore plus haut. L'indocilité a gagné. La danse folle de l'insouciance peut commencer. La troisième partie de ton recueil a pour titre « Elle qui ?» et tu disais tout à l'heure que c'était un petit peu une suite d'un des textes du premier recueil. Donc on peut se demander un petit peu qui est-elle, si c'est quelqu'un en particulier.
C'est elle, ce « elle », disons, est un « elle » un peu énigmatique. Donc le texte, cette partie est basée sur ce « elle » qui vit à distance du monde, qui vit dans la nature, dans le silence, et qui est attentive à la beauté, à ce qui l'entoure. Oui, cette partie fait écho à la partie, c'est sa façon d'aimer, de mon livre précédent, Dès lors l'immobile. Il me semble que cette partie... Enfin, pas seulement celle-là, mais permet une lecture plurielle, notamment sur le « elle ». Il n'y a pas d'indice qui laisse entendre que Est-ce que c'est une personne plutôt âgée? Est-ce que c'est une personne plutôt jeune? Est-ce que, en fait, c'est pas mon sujet, c'est un elle. Voilà.
C'est du féminin, voilà.
C'est du féminin, voilà. C'est du féminin indéfini comme le on, quoi. C'est du féminin. Après, voilà, le lecteur se débrouille avec ça.
Mais c'est bien, il faut laisser un peu de place au lecteur.
Bien sûr, bien sûr. Hein, ce elle qui vit à distance du tumulte du monde, voilà.
Alors moi, j'ai eu une sensation en le lisant que, de par déjà la mise en page que tu as choisie, et puis le style en général, ça fait un peu transition entre les deux premières parties et la quatrième.
Oui,
c'est-à-dire que ça, le texte s'aère, et c'est comme si on allait petit à petit de la prose poétique, comme tu disais, à la poésie en vers.
Voilà.
Donc voilà, vous allez l'entendre, ce « elle qui ». En entier cette fois, avec une mazurka de Chopin. Elle qui marche sur des feuilles d'or, silencieuse vers des rives lointaines. Elle, hésitante, abandonnée au frimas de novembre, blessée peut-être. Elle, en recherche, vouée à l'errance. Elle, paupières scintillantes, peau marbrée, ivresse de la fuite, vertige crépusculaire. Gracile silhouette dans le soyeux du soir, le pas léger. Elle qui porte lumière, porte parole, peint un jardin secret. Elle qui fredonne une chanson d'automne, presse le pas, défie la poussière du temps, vibre et tremble. Elle, cheveux au vent, qui dit le soir ardent, la fébrilité des arbres, la respiration du ciel. Elle qui laisse s'échapper des larmes nacrées et serre dans ses mains des mots orphelins. Elle dans l'acceptation du silence, dans la jubilation de la solitude, à l'heure de gloire des étoiles. Ballerine égarée sous un ciel étonné, cherchant une ouverture loin du fracas du monde. Échapper à l'ordre agencé, fuir l'injonction du bonheur, les vitrines indécentes, se fondre dans le commun des jours. Elle qui veut rejoindre en silence la fragilité de la nuit, savourer le parfum de la solitude, s'immiscer dans la saveur d'un regard lumineux, dans l'ivresse d'un visage. Elle qui veut reconquérir des mains chaudes, des instants de douce mélancolie, apprivoiser l'enfance perdue, un pan de ciel clair. Elle est prise de la pureté du simple. Elle, une voix dans la nuit froide, la vie qui renaît, présence rétive dans la grisaille d'un jour sans âme, une fenêtre ouverte, un rayon de clarté soudaine. Elle qui regarde l'horizon, qui attend sans savoir vraiment ce qu'elle attend. Elle épuisée par ce vide qu'elle a voulu fuir. Elle qui marche vers une terre promise, qui fait de chaque jour une aventure, qui sait que la vie renaît, toujours, sauvage, intranquille, inattendue, qu'il faut la débusquer, que rien n'échappe à l'énigme. elle dont l'impatiente fougue ne se soumet jamais. Elle, silencieuse, défiant le ressac, gravant ses pas dans la vie qui tremble. Elle, présence insolite dans la chorégraphie de la nuit tombante, rebelle qui ne veut plus vivre en sommeil, ne plus renoncer à l'étincelle. Elle, dont la furtive présence dans le pourpre du soir dit quelque chose sur le monde. Elle qui veut la beauté à portée de main. Alors, on arrive tout doucement à la quatrième partie de ton recueil. Alors, tu disais tout à l'heure prose poétique, écriture en vers. Est-ce que tu peux revenir là-dessus sur ce qui est, pour toi, qu'est-ce qui diffère entre les deux ?
Bon, alors, ce qui diffère, une des choses qui diffère, c'est déjà dans un poème, moi, je fais le choix de ne pas mettre de ponctuation. Parce que ça laisse une espèce de liberté, voilà. Alors que dans la prose poétique, j'utilise une ponctuation classique, quoi. Mm-hmm. Et en termes d'écriture, c'est important, ces différences. C'est pas la même démarche, voilà. Donc, ce sont des poèmes. Il y a aussi la disposition, disposition de poème, quoi. C'est pas tout à fait la même démarche. Alors, quand j'écris, par contre. Parce que j'ai toujours, quand j'écris, moi, j'ai une démarche de chantier. Et j'ai plusieurs chantiers en même temps. Je peux très bien avoir un texte en prose en chantier mm-hmm. et en même temps 20 poèmes en chantier. Et il y a certains jours où je vais plutôt travailler sur les poèmes et puis d'autres moments, je reviens à la prose. Voilà. Moi, j'ai une écriture... j'ai pas de plan au départ, hein. Donc tout ça, une organisation, on en parlera peut-être après, l'agencement d'un livre, moi je le fais après. Quand je parle de prose, je crois que, enfin, je sais pas ce qu'en dit le lecteur, mais on est bien toujours dans la même, je crois qu'on reconnaît mon écriture,
la tonalité, hein, la
dans la tonalité, oui. Voilà. Mais voilà, il y a ces différences de disposition et de ponctuation. Et le poème, c'est court. Enfin, oui. Souvent. Parfois, je fais des poèmes plus longs, mais c'est plus court que de la prose. Mmh, mmh. Donc, l'idée, c'est de dire beaucoup, fort, avec peu de mots. Mmh.
Et ça laisse peut-être plus de place au lecteur aussi.
Peut-être aussi.
Parce que les textes qu'on a lus jusqu'à maintenant, on se laisse aller texte. Alors que là, c'est très court.
Oui.
On peut le relire,
on peut
réfléchir ou se laisser porter par les mots.
Oui, c'est vrai.
Ça laisse plus de place,
Je pense, oui. Voilà, donc cette partie, ce que l'on abandonne, s'appelle ce que l'on abandonne.
Oui, alors on pourrait penser que c'est triste ce que l'on abandonne, mais c'est pas du tout... Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, d'accord. Je te le dis, c'est ce que l'on abandonne, mais finalement, on se défait aussi peut-être de choses qui ne sont pas essentielles.
Oui.
Donc, restera l'essentiel.
Oui, c'est aussi l'idée de... On trace son chemin et le chemin avance avec les années. Et sur le bord du chemin, il y a des doutes, des rires, des enthousiasmes, des moments de tristesse ou de découragement. On revient toujours à la même chose, la vie, quoi.
Oui, l'important, c'est de les avoir vécues.
Voilà, l'important, c'est de les avoir vécues, voilà. Et ces poèmes, ces textes, ces poèmes, sont toujours à l'affût du poétique des choses, au sens simple. La beauté d'un arbre, une présence fugitive, un instant passé, enfin, la vie fuyante, le temps qui passe. C'est un peu un de mes thèmes, quand même.
Normal.
les années qui passent. C'est le sentiment du vide aussi. Puis, les rires, Et l'idée que le présent, je crois que c'est Leclisio. J'ai entendu Leclisio dire quelque chose de très simple, mais très beau. Il dit « Le présent est la seule réalité. » Ça va beaucoup plus. Le présent est la seule réalité.
Bien sûr.
Voilà. Voilà.
Alors peut-être que, avant de découvrir les textes de cette quatrième partie, on va faire une petite pause musicale. On revient à Thomas Hadès. Et on est assez loin des mazurkas de Chopin. Mais j'ai beaucoup aimé ce morceau parce que c'est un petit peu comme une pluie de notes, comme un orage au cœur de l'automne.
À la lisière de l'aube naît une douce rumeur, parole susurrée, fragment d'une musique intérieure. Des pas légers, des mains ouvertes accueillent le parfum de l'exil. Les regrets ne s'effacent pas, la solitude coule dans les veines.
Ouvrir la fenêtre, s'agripper au paysage, sans songer à personne, en oubliant hier, s'inscrire dans l'étrangeté de l'instant, veiller sur l'illusoire éternité, ne rien attendre.
La clarté se pose sur les dermes, l'aube apporte sa clé, s'éveille le manège du jour. Bientôt, la vie trépidante, on ne parle pas, on a déjà inscrit cela dans nos sens.
Le jour, imbibé d'absence, la neige assourdit les pas. Rien, sinon la mémoire qui blesse. Où est la promesse ?
Une lointaine lueur, un visage inconnu, lampes éteintes, senteur de mousse sur les ruines pierreuses, manteau de brume, l'abandon dans le gris du soir, la résine du temps à l'œuvre. Personne ne s'émeut.
Une femme crie, poids de la nuit de marbre, distance nécessaire à l'ordre des choses, ce qui déchire.
Parfois, Errante dans la brume d'octobre, une silhouette marche sur un chemin herbeux, le corps un peu courbé, le pas hésitant, présence qui cherche une autre rive, dont les pas languissent les inachèvements.
Que cette nuit soit douce, demeure un pays sans lassitude, sans désert, sans désarroi. Une terre d'accueil dans un monde épuisant. Peu de lumière suffit à éclairer les jours sombres. Les espérances ne se rompent jamais tout à fait. Les braises ravivent le chant du crépuscule. On est toujours rattrapé par l'écume du soir, le chant d'une femme dans un soir de novembre, un silence qui protège les confidences de l'aube, un visage ridé derrière la vitre humide, un chemin qui se perd dans l'écume des souvenirs. L'envol d'un jour nouveau repoussant l'amertume, le sommeil d'une barque dans la brume argentée, l'étreinte d'un arbre, les mains du soleil. L'embellie, si proche.
Une femme s'agenouille sur la pierre tombale. Digne silhouette dans le froid qui saisit. Au-delà du portail qui grince, halte d'hiver.
Traversée de l'immensité à l'heure du soleil déclinant. Les mains aimées tremblent. Sans gouvernail, le verbe en deuil cherche sa voix.
Poussière de rêve effacée, la mélancolie frappe à la porte du jour qui disperse ses cendres. Nous voilà au pied du mur, entre les mailles du temps. Il suffit de si peu pour que page reste blanche.
On marche dans des espaces sans nom, pays de retenue. Où se taire est offrande, où la lenteur est reine. L'absence a un nom, le rêve un visage. Les terres sont arides, le silence est roi. On marche, on marque le pas pour une feuille, pour un roc, sans poussière, sans larmes, sans fureur. Chaque pas est encre. Chaque respiration est chant. Une lumière nous sourit, nos chaînes se détachent. Et soudain, plus léger, plus neuf, notre regard éclaire les ombres.
On scrute l'horizon ensommeillé. Une femme, chevelure au vent, revient de la mer lointaine. Sous le voile du soir, la beauté s'invite.
lieu déserté. L'oiseau se réfugie dans l'arbre qui l'accueille. Chaque jour qui passe est une barque vide. On ne se livre pas aux blessures du temps. On ne renonce pas à l'écume de l'insouciance. On retient la parole. Les regards suffisent.
Jamais vraiment seul. L'énigme des regards, l'écho des soirs fébriles, des visages en exil, une clarté clandestine, le cortège des doutes, le vertige des heures vides, l'humilité du jusant, le silence des rocs, le murmure des frondaisons nous accompagne, habite nos jardins, police le présent, aide à la traversée. Des complices, des alliés, des fils tressés.
Éviter les écueils, penser les cicatrices, retenir les mots multiples, nous vêtir de lumière, approcher la beauté du monde. Aurons-nous le temps ?
La scie de l'homme qui coupe du bois, le rire de la femme dans le matin argenté, bruit familier qui efface les aspérités des jours mornes, abolissent le temps qui use.
Des chemins délaissés, des larmes contenues, des heures poussiéreuses, des rêves désertés encombrent nos bagages, hantent nos jours, closent les fenêtres, érigent des murs. Mais rien ne contraint le champ.
Ainsi, dans la force de l'instant, s'éparpillent des larmes soyeuses, des nuées de regards frêles, des pas trébuchants, les brèches de la vie fuyante.
Des mots voyageurs, des yeux qui doutent, des chemins chaotiques, une voix intérieure dérivant loin du corps, un chant à nu, une lueur qui frémit, un présent frêle. Ce que l'on abandonne. Alors voilà, je crois que nous avons terminé nos lectures, mais on peut un petit peu parler. On n'a pas parlé du tout. Ton recueil comporte des illustrations. Tu peux nous dire deux mots ?
Oui, donc il y a donc quatre parties. Donc pour introduire chaque partie, il y a une encre qui a été faite, comme pour le premier livre, par Pierrette Guettet. Voilà.
D'accord.
Très belles encres.
Oui, très jolies. Alors, merci à Pierrette pour ses encres. Et puis, un livre, ça s'écrit, ça se vend aussi,
oui.
On en fait la promotion. Donc, quels sont les projets dans l'immédiat concernant ce recueil ?
Alors, le samedi 21 octobre, à la librairie Montbarbon, puisque la librairie Montbarbon vend mon livre, donc là, il y aura une séance de signature, comme j'avais fait pour le précédent livre. Mm-hmm. Donc, c'est l'après-midi de 15h à 18h. Voilà. Il va y avoir aussi, on va mettre en place, avec mon complice Éric Simonet, une lecture musicale de ce livre, de ces braises qui nous portent. Et on fera une lecture, ça va être le 3 février, à la librairie Buffet à Oyonnax.
D'accord.
Et là, il y aura aussi une séance de signature. Je suis également en contact avec la librairie Vivement Dimanche à la Croix-Rousse à Lyon, où... la date n'est pas encore définie, mais lors du Printemps des Poètes en mars 2024, on présentera aussi cette lecture musicale. Et dans cette librairie, on trouve aussi mon livre. Voilà où nous en sommes. Autrement, le livre, on peut le trouver donc, aussi à la librairie La Virevolte à Lyon. Peut-être bientôt la librairie Passage à Lyon également. On peut le commander aux éditions Alcyone en allant sur Internet, directement aux éditions, en allant sur le site des éditions Alcyone. Et puis, on peut aussi le commander dans n'importe quelle librairie en France, voilà, si l'on veut se procurer le livre.
Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, hein, entre signature, lecture musicale. Voilà. Donc ce livre, il va continuer à vivre, là.
J'espère.
Bien. Alors, est-ce que après un deuxième recueil, tu envisages un troisième
J'écris, je continue d'écrire, donc j'espère, oui, j'espère. Après, voilà, pour l'instant, j'écris, j'ai plusieurs textes de prêt. Alors, je participe aussi au Prix des Trouvères, qui est un concours important, un concours de poésie qui se fait dans le nord de la France. Donc là, j'ai envoyé un manuscrit. Alors, j'avais été finaliste il y a 2 ans. Je n'avais pas le prix, mais enfin, j'étais finaliste, donc c'est encourageant.
Alors, finaliste, ça veut dire
Ils font une première sélection de 5 auteurs, et je faisais partie des 5. Okay, voilà. Bien. Donc là, je reparticipe, j'ai envoyé un manuscrit qui est tout prêt. Voilà. Autrement, j'ai d'autres textes qui sont prêts et aussi des textes en chantier. Alors, je vais voir en 2024, ou fin 2023-2024, il y a un moment où je vais organiser, agencer ces textes et puis envoyer encore à un ou des éditeurs en attendant la suite.
Ouais, il y a d'heureuses surprises, puis j'imagine aussi parfois des déceptions quand on envoie un recueil.
Oui, il y a. C'est très difficile de se faire éditer en général, mais particulièrement en poésie, car il y a beaucoup de maisons d'édition, mais ce sont des petites maisons, je dis petites, pas par la qualité, évidemment.
Oui, par la taille.
Oui, par le côté économique. Donc des maisons d'édition qui vont pouvoir publier, selon leur importance, certaines vont publier 5 livres dans l'année, d'autres 10, 15, 20, c'est déjà beaucoup. Voilà, sauf que ces maisons d'édition reçoivent des centaines et des centaines de manuscrits. Et le jour où un éditeur vous dit « je vous prends », on est très heureux.
Ouais, c'est-à-dire tout le monde, beaucoup de personnes écrivent, donc j'imagine beaucoup de personnes envoient.
Voilà, mais ces maisons d'édition, une maison d'édition qui fait 10 livres par an, si c'est 10, c'est pas 15, c'est 10. Et voilà, je connais assez bien cette situation. Et voilà, ils reçoivent énormément, toutes les maisons d'édition reçoivent énormément de manuscrits, beaucoup plus qu'elles ne peuvent en publier.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça. Donc, mais il faut garder espoir.
Oui, l'espoir fait vivre.
Hein, absolument.
Bon, alors, on peut peut-être se réécouter une petite mazurka, la numéro 3 en fa mineur, par exemple. Alors, la majeure partie des compositions que vous avez entendues durant cette émission étaient en mineur. Est-ce que ça convient bien à tes textes, Pierre, le mineur ?
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup les tonalités mineures. Moi, je joue du piano et d'ailleurs, je me rends compte que quand je travaille un morceau, quand je compose des intermèdes pour des lectures au piano, c'est très très souvent en tonalité mineure. Je trouve que la tonalité mineure, elle va avec la mélancolie, la douceur, l'ocre que l'on évoquait tout à l'heure. Et j'aime beaucoup les tonalités mineures. Oui. Donc le choix des musiques est parfait.
Merci. Voilà, que dire d'autre ? Alors, peut-être ton ressenti, toi, par rapport à la poésie. Quel type de poésie tu aimes lire ? Et puis, qu'est-ce que tu penses de la poésie ? Quel intérêt y vois-tu ?
Moi, j'aime lire aussi bien les poètes, les grands poètes du 19e, mettons, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, que la poésie du 20e, hein. René Char, Aragon, ou la poésie actuelle, hein, Yves Bonnefoy, Philippe Jacotet, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, hein, Philippe Maty, André Chédide. Voilà. Je trouve que ce monde a bien besoin de poésie. On vit à l'ère de la communication, du divertissement obligatoire. Hein. D'ailleurs, le mot divertissement, l'origine, c'est divertere, ce qui veut dire se détourner de. Et je crois que la poésie, c'est tout le contraire. Souvent, il y a une perception de la poésie comme étant une fuite du réel. Je pense que la poésie, c'est exactement l'inverse. La poésie s'intéresse, ne fait que de s'intéresser au réel. Quand on lit les poètes, avec toute sa complexité, hein, complexité des choses, du monde, de l'humain. Et je crois que la poésie, c'est au contraire un réalisme. Ce n'est pas une fuite du réel, c'est une immersion dans le réel. Voilà. Et ce n'est pas un divertissement, c'est pas quelque chose... Un divertissement, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel.
Oui, au contraire, ça permet de recentrer les gens, je pense.
Oui, voilà. Ouais. Elle a des enjeux existentiels, quoi. Enfin, voilà, c'est ce que je pense de la poésie. On peut peut-être citer Rilke, là, qui disait... J'adore cette phrase, « Les vers ne sont pas, comme certains le croient, des sentiments, ce sont des expériences. » Il y a un long texte où il dit, avant de pouvoir écrire un vers, il en faut des soirs de solitude, des moments de doute, etc. Et c'est ça, quoi. C'est ça. Oui.
Bien, bien, bien. Mais écoute, moi, je suis ravie de t'avoir accueilli aujourd'hui.
Moi, je suis ravie de revenir à Radio B.
Donc, tu es le bienvenu pour le troisième, hein, si le troisième il y a, quand
merci.
Tu veux. Moi, je voudrais juste rajouter que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est bien pour ça que j'essaie de promouvoir un peu la poésie à la radio, parce que je pense que pour les gens qui n'ont peut-être pas la possibilité ou l'inclination pour ouvrir un livre de poésie, c'est bien de l'entendre aussi.
Oui.
Et je pense que parfois, ça peut déclencher quelque chose. Oui. Et moi, je sais que pour ma part, quand j'entends quelque chose à la radio, que ce soit des mots ou que ce soit de la musique, souvent, ça me fait aller vers quelque chose de neuf et faire des expériences nouvelles, justement.
C'est aussi pour ça qu'on est en train de mettre en... Enfin, on a déjà mis en place, on a déjà fait des lectures musicales et que l'on va en refaire là pour ce livre. Il y a des personnes qui m'ont déjà dit moi je n'achèterai pas, enfin je ne vais pas vers le livre de poésie, je constate que j'en achète pas, par contre je vais volontiers une lecture.
Ouais, bien sûr.
Et après, parfois, ça me donne envie de finalement d'ouvrir un livre. Ouais. Et voilà, passer par la lecture, quoi,
ouais,
l'oral.
Il faut bien que la poésie est faite pour être dite.
Voilà,
hein. C'est ça qui importe.
Voilà.
Voilà, écoutez, c'est la fin de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Ce sera le jeudi 16 novembre. Eh bien, au revoir à tous. À bientôt. We'll be right back. ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.